La manière dont Catherine II pratique le français dans la très abondante correspondance qu'elle adresse à Grimm, à Friedrich Melchior Grimm, à partir de 1774, pendant 22 ans, présente un intérêt particulier. Tout d'abord parce que ces lettres, parmi les lettres françaises de Catherine, sont de premier jet, contrairement, par exemple, aux lettres adressées à Voltaire. C'est au seul Grimm que Catherine peut déclarer, non sans coquetterie, « Il est vrai, je vous écris tout ce qui me passe par la tête, sans ordre, ni règle, ni style, ni orthographe. » Et ces lettres à Grimm n'ont pas été revues par un secrétaire francophone et n'ont pas été précédées de brouillons, contrairement aux lettres à Voltaire. D'autre part, cette spontanéité, qui est toute relative, on le verra, est accentuée par la relation très exceptionnelle que Catherine établit avec le directeur de la correspondance littéraire. Elle lui déclare « Je n'écris à personne comme à vous » ou encore « Avec vous, je jase, mais n'écris jamais. Je préfère de m'amuser et de laisser aller ma main. » Ces lettres peuvent donc s'avérer particulièrement instructives à condition de bien préciser notre objet. Il ne s'agira pas tant d'évaluer les capacités linguistiques de Catherine, mais plutôt d'apprécier l'usage qu'elle peut faire spontanément du français au cours d'une relation confiante et apparemment sans apprêt. Mais bien sûr, il faudra considérer ces lettres dans leur état natif, c'est-à-dire manuscrit, et non pas dans l'édition quelque peu corrigée donnée par Grote en 1878. La langue que pratique Catherine dans ses lettres est indissociable d'un mode particulier de relation qu'elles établissent, et donc d'un certain style épistolaire dont je vais dire deux mots. Dans les premiers temps, l'échange avec Grimm n'a guère de fonction utilitaire, car il n'est peu question d'affaires. Cet échange se présente fréquemment comme une suite des conversations que les deux correspondants ont eues régulièrement à Pétersbourg pendant le séjour de Grimm. Et en mai 1774, Catherine, qui commande volontiers sa manière d'écrire, déclare par exemple « Cette lettre commence à ressembler aux jaseries après 8 heures de Tsarkoïe-Selo. » Et le mois suivant, elle fait de nouveau allusion à ses, le site « Conversations philosophico-comiques ». Des entretiens que Grimm présentait à Madame Geoffrin ainsi « Là, on cause, on babille de choses sérieuses, gaies, graves, frivoles. » On pourrait donc penser que les lettres à Grimm ne font d'abord que prolonger à distance des conversations de salon, ce qui n'est pas faux, mais on doit se garder de croire qu'une telle appréciation implique que leur fonction et leur style auraient quelque chose de futile. Et ceci pour deux raisons qui déterminent certains des caractères linguistiques de ces lettres. Tout d'abord, bien que Catherine présente ses lettres comme improvisées et écrites à la diable, de multiples indices montrent qu'à ses yeux, elles ont une dimension littéraire. En décembre 1978, quelques mois après la mort de Voltaire, elle déclare à Grimm « Or, écoutez donc, s'il y a de la force, de la profondeur, de la grâce dans mes lettres ou expressions, sachez que je dois tout cela à Voltaire. » Car pendant fort longtemps, nous lisions, relisions et étudions tout ce qui sortait de sa plume. Mais Voltaire n'est pas le seul modèle, Grimm aussi est un modèle. Quand il arrivera à Grimm de déprécier son ancien métier de journaliste, Catherine réagira vivement. Elle lui dit « Ces feuilles faisaient une délicieuse lecture, et après ces feuilles-là, il est impossible d'en lire jamais d'autres. » Si vous en direz jamais du mal, sachez que vous ignorez vous-même votre mérite et celui de ces feuilles par excellence. Et voilà la raison pourquoi monsieur le souffre-douleur, c'est Grimm, fut accueilli. Donc les lettres à Grimm sont aussi une suite de la correspondance littéraire que Catherine évoque avec tellement d'enthousiasme et dont l'influence stylistique et linguistique est d'ailleurs très visible. Et l'autre raison qui interdit de considérer ces lettres comme un futile bavardage de salon, même si leur contenu informatif est mince, c'est qu'elles répondent à un besoin impérieux en perpétuant une sorte de relation, une relation forte qui se justifie par elle-même. Catherine ira un jour jusqu'à déclarer à son correspondant « Voilà, me paraît, la troisième lettre que je vous écris, sans trop savoir pourquoi, mais il faut que je vous écrive, ma tête le veut. » Et c'est une complicité dont Catherine souligne à plusieurs reprises le caractère exceptionnel, et cette complicité implique un langage particulier. Comme les conversations qu'a appréciées Catherine à Tsarskoïe-Selo, l'échange épistolaire est le plus souvent vif, rapide, et pris comme un jeu. Un jeu qui présente plusieurs avantages. D'abord, ce jeu abolit la distance entre la souveraine et le journaliste. Entre eux ne subsistent d'autres protocoles que les règles implicites qu'ils ont données à ce jeu. Et la principale règle, c'est de ne pas être ennuyeux. D'autre part, ce jeu établit entre eux une connivence par la multiplication des conventions qui lui sont propres. C'est une sorte de langue particulière qui est d'ailleurs parfois difficile à décrypter. Dans ce jeu, il y a par exemple l'usage répété des surnoms. Il y a l'insertion de mots et de phrases en allemand, leur commune langue maternelle. L'emploi de mots dans le sens particulier que Grimm leur donnait dans la correspondance littéraire, par exemple « secte » pour désigner les physiocrates, ou encore au recours fréquent à des parodies du discours religieux, à la manière du sermon philosophique que Grimm avait inséré dans la correspondance littéraire de janvier 70. Et ce jeu qui est un jeu de langage, cette langue particulière qu'ils façonnent à leur usage, a en fait l'avantage de crypter leurs propos au détriment des curieux, les commis de la poste dont il est souvent question au début de cette correspondance. Alors plus tard, les conditions changeront, les conditions d'échange changeront, et il est probable que le jeu, le style, la langue même changeront quelque peu dans les lettres de Catherine, mais je laisserai de côté cette question d'une évolution éventuelle. Donc la langue de Catherine dans ses lettres est en grande partie déterminée par les caractères stylistiques propres à cette correspondance. Alors tout d'abord, ce sont de fréquentes marques d'oralité. Comme le prétend Catherine à plusieurs reprises, elle n'écrit pas, elle cause, elle jase. Et certaines graphies phonétiques ou des mots légèrement déformés témoignent vraisemblablement de l'influence de la langue parlée et aussi d'une rédaction au fil de la plume. Il en est de même de l'absence fréquente des accords grammaticaux, des erreurs dans les désinences de personnes verbales, etc. Autant de détails qui n'ont pas de conséquences sur le sens et qui sont dédaignés. La syntaxe est également bien souvent celle d'une parole rapide qui manifeste peu d'écart pour les articulations grammaticales usuelles. Ce sont parfois d'énormes phrases accumulatives qui enchaînent par simple coordination des éléments très divers. Ainsi, une lettre que Catherine écrit visiblement à la hâte en 1775 avant d'entrer à Moscou commence par une phrase interminable qui rassemble peut-être le contenu de cinq phrases différentes sur des sujets différents. Mais une autre lettre de septembre 78 ne comporte guère qu'une seule phrase qui est consacrée aux réflexions et demandes concernant les copies des loges de Raphaël. Et cette phrase ne s'achève que lorsque la question est épuisée. Cependant, dans un cas comme celui-ci, cette syntaxe cumulative traduit à l'évidence un mouvement de passion, d'enthousiasme. Et il en est de même au début d'une lettre d'octobre 78 à propos de la nouvelle édition des œuvres de Voltaire. Quand Catherine appelle une tirade prononcée d'un seul souffle, je termine ainsi, je donne seulement la fin. « Donnez-moi 100 exemplaires complets des œuvres de mon maître, afin que je les dépose partout. Je veux qu'ils servent d'exemple, je veux qu'on les étudie, qu'on les apprenne par cœur, que les esprits s'en nourrissent. Cela formera des citoyens, des génies, des héros et des auteurs. Cela développera 100 000 talents qui se perdraient d'ailleurs dans la nuit des ténèbres, de l'ignorance, etc. » Mais ailleurs, le rythme syntaxique est beaucoup plus mesuré. Et donc ces mouvements de passion qui l'interrompent traduisent par des anomalies syntaxiques un certain effet de style. Donc on peut considérer que ce ne sont pas des maladresses ou des négligences, mais véritablement une certaine forme de recherche. J'aborde maintenant l'aspect plus intéressant de la langue de Catherine, sans doute, c'est son lexique qui est extraordinairement étendu. Alors, je commencerai par des expressions proverbiales et idiomatiques qui sont très nombreuses. Par exemple, la vieille expression, très vieille expression française, ne pas se moucher du pied, qu'elle affectionne, mais elle l'utilise pour plusieurs fois. Elle écrit par exemple qu'elle a souffert d'un mal de tête qui ne se mouchait pas du pied. Ou, à propos de son petit-fils, elle dit qu'elle a entrepris pour Monsieur Alexandre un petit ABC de Maxime qui ne se mouche pas du pied. Et l'expression exprime donc l'intensité ou l'excellence ici. Et c'est un usage décalé, puisque le sens ordinaire de l'expression, c'est appliqué à une personne, c'est qui se donne de l'importance ou qui est important. Molière fait dire à un personnage que Tartuffe est un homme qui ne se mouche pas du pied. Donc en fait, elle décale, et c'est fréquent, une expression pour un effet comique. Autre très vieille expression, Catherine utilise plusieurs fois, et qui a également une valeur comique, elle est paître les oies. Elle emploie à propos des rimailleurs qui ont cru bon de gloser sur les noms de ses petits-fils, Alexandre et Constantin, « Je leur ai fait dire d'aller paître les oies ». D'ailleurs, elle fait allusion à une chanson qui est passée comme proverbe, « Ma plume, elle va comme le cotillon de ma commère ». Bon, je passe d'autres expressions proverbiales. Simplement, je remarque qu'elle emploie des expressions qui, appliquées à elle-même, c'est-à-dire dans ce contexte, ont un effet comique. Par exemple, elle dit qu'elle a couru comme un basque. Elle travaille comme un âne. Et le cuisinier de Potemkin, M. Bertin, dit-il, même comme pain. Donc, la fréquence de ces expressions témoigne de la grande familiarité de Catherine avec la langue française. Elle le doit à sa gouvernante, à son professeur de français, dont elle rappelle souvent le souvenir, et elle multiplie les expressions proverbiales, comme aller à la bride à la main, revenir à ses moutons, agir chat en poche, ou des proverbes comme marchand d'oignons se connaît en ciboule. Ou encore une expression qui vient alors de la littérature, voilà bien du bruit pour une omelette. Voilà bien du bruit pour une omelette, disait Feu des Barreaux. C'est une référence à l'histoire de ce poète libertin qui avait fait scandale en mangeant une omelette au lard un vendredi saint. Et malgré les exemples que j'ai donnés, ces expressions en général sont des expressions de la langue parlée. Mais il y a aussi dans le lexique de Catherine beaucoup d'expressions qui ont au contraire un caractère littéraire très marqué. Je vais manquer de temps pour en parler. Mais une des aspects les plus intéressants, ce sont les archaïsmes. Elle emploie, par exemple, enfin, quelquefois sans intention particulière, le mot reçu pour réception. C'est un mot qu'on trouve dans le dictionnaire du moyen français, c'est-à-dire de la langue française des 14e et 15e siècles. Elle emploie revanche, pour revanche, qui est aussi un mot du moyen français. Elle écrit couramment séant, un mot qui figure couramment dans les 100 nouvelles, qui est un recueil de nouvelles grivoises, d'ailleurs, souvent, de la fin du 15e. Mais qui a été édité souvent au XVIIIe. Et alors, ces archaïsmes sont souvent utilisés pour un effet humoristique. Par exemple, à propos du portrait du pape, qu'elle ne sait pas où placer, elle dit j'ai le portrait du pape, mais il n'y a plus de place à la grenouillère, c'est un château des environs de Pétersbourg, où je huche tous les souverains. Huchet, c'est aussi un mot d'ailleurs assez rare en moyen français, mais qu'on trouve couramment dans les 100 nouvelles nouvelles. Ça veut dire faire venir, placer ici. De même, elle écrit Vela, Vela pour voilà. C'est une forme de moyen français qu'on trouve chez Froissart, par exemple, dans le XIVe siècle. Je ne parle pas des formules rabelaisiennes parce qu'elles sont assez courantes de toute manière au XVIIIe siècle. Alors, une autre source visible, c'est la langue du théâtre. Elle écrit à Grimm, par exemple, « Je me doute d'où vous vient ce petit scripile. » Et ce mot scripile, elle l'emploie au moins deux fois. Ce n'est pas un lapsus. Cela vient du langage de la comédie, et en particulier du théâtre de la foire. Scripile pour scrupule. De même, elle emploie morgue, qui est un juron habituel du langage des paysans et des valets de théâtre, les gages conventionnels. Bon, je cite un peu en vrac, dans La fête d'amour, qui est une pièce de Madame Favart, 1754, Lucas qui chante, « Je chantons tout notre cœur, morgue chacun fait de même », ou encore « J'entends dans rien, à tous biotripotage ». Et son ami Collinette répond « Stapindan, vous n'avons rien mieux à faire ». Alors ces mots « tripotage », « stapindan » ou « stipindan » pour « cependant », sont des mots qu'affectionne Catherine. Elle écrit de même couramment « stila » ou « sti » pour « celui-là », « celui-ci »,« scripil » donc, je l'ai dit. Et une dernière citation « sti diable de moussir scripil » est gravement ridicule, pour qui donc sti constat ? C'est un Suisse allemand qui parle comme ça. Et Catherine reprend de cette expression. Et de même, bon, bien sûr, on trouve aussi dans la langue de Catherine des mots qui ont une source plus sérieuse, par exemple des mots voltairiens. Bon, le mot pancarte qu'ils emploient ensemble est un mot que Voltaire emploie, mais que Grimm aussi, évidemment, emploie. Et souvent, le vocabulaire de Voltaire peut passer par Grimm. Et quand elle écrit à propos de la mort de Louis XV, qui est mort pour ne pas s'être fait inoculer contre la petite vérole que ça l'a épêche, évidemment, c'est un mot voltairien. Mais il y a des mots plus rares, par exemple le mot rengorgé. Participe passé adjectif, c'est-à-dire qui prend un air important, elle écrit, elle emploie plusieurs fois. Elle dit par exemple le bourgmestre le plus rengorgé de toute l'Allemagne. Et c'est un mot qu'on trouve, qui est assez rare, mais qu'on trouve chez Voltaire, qui parle des dindons rengorgés, mais aussi des petits marquis rengorgés. Beaucoup d'autres mots chez Catherine ont une origine qui n'est pas identifiable, mais ce sont des mots qui sont fréquents chez les auteurs du XVIIe, c'est tout ce qu'on peut dire. Par exemple, on emploie très souvent « pécor » pour « personne stupide », et c'est un mot qu'on trouve chez La Fontaine, chez Madame de Sévigné, chez La Rochefoucauld. Elle emploie « opiniâtreté » également chez Madame de Sévigné ou La Rochefoucauld. Girouetterie, à propos du roi de Suède, qui change souvent d'avis, c'est un mot qu'on trouve dans les mémoires du cardinal de Retz, etc. Quant au mot French dog, elle dit à Grimm un jour, vous autres French dogs, chien de français, c'est un mot qu'on trouve dans la relation d'un voyage en Angleterre de Sorbière, un ouvrage qui a été interdit pour offense à la nation anglaise, mais qui a été plusieurs fois réédité. Et ce French dog, en fait, c'est une expression française très ancienne, puisqu'on la trouve déjà à l'époque de la guerre de Cent Ans. Alors, elle aime beaucoup aussi des mots rares, mais extrêmement imagés. Par exemple, toupillage. À propos de la première grande duchesse, la première femme de Paul qu'elle n'estimait guère, elle dit, c'est toujours toupillage. C'est-à-dire, elle tourne, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle perd son temps. C'est toupillage. Mais elle emploie un mot de la même famille pour elle-même en disant, parce qu'elle s'occupe de différentes choses, elle est folle, etc. Elle dit l'impératrice, puisqu'elle parle d'elle à la troisième personne, l'impératrice toupille sans toupiller. Enfin, je termine, il y a aussi les créations lexicales qui sont assez nombreuses. qui ne sont pas des fautes, mais vraiment des créations. Je citerai simplement ce que dit Diderot à ce sujet, puisqu'il a repris un mot de Catherine, il écrit dans un écrit pour Catherine, « Les grands hommes préfèrent leur gloire particulière à l'utilité générale, et ils aiment mieux faire du bruit que du profit, de l'aumerie, madame, de l'aumerie, c'est bien là, vous avez inventé un mot bien indulgent et bien juste. » Et on pourrait faire une loi, je ne la fais pas, de ces créations lexicales de Catherine qui sont dans l'esprit de la langue. Je termine par une très brève conclusion. Cette question de la langue de Catherine, en fait, est une question beaucoup plus vaste que je le croyais. Et il y aurait, par exemple, des recherches à faire en rapport avec la bibliothèque de Catherine, à savoir ce qu'elle lisait, etc. Je n'ai pas fait cette recherche. Il faut d'autre part reconnaître qu'il y a beaucoup d'incertitudes, quelquefois même sur le sens des expressions, et à plus forte raison sur le sens exact, puisqu'elle décale souvent le sens, et aussi sur l'origine. J'ai lancé quelques hypothèses, ce sont des hypothèses un peu en l'air, et peut-être on peut aller plus loin. Alors, d'autre part, j'ai exclu la comparaison avec d'autres correspondances de Catherine, et pourtant il serait assez instructif de voir quels sont les rapports avec cette langue propre aux lettres adressées à Grimm et d'autres correspondances, puisque les différences peuvent indiquer justement qu'elle sait manier le français de manière distincte pour certains effets de style. Je vous remercie.